Chapitre 19. Pluie de plumes. Des milliers de taches colorées, de toutes les nuances de bleu, dansaient sur les immenses murs blancs de la cathédrale, sur les hautes colonnes de pierre sculptées, sur les courbes grandioses et délicates des voûtes de la nef, sur les statues d'hommes crucifiés et de femmes éplorées. Un spectacle unique, sublime. Le laser venu du ciel avait été conçu pour traverser les vitraux de Notre-Dame et se diviser à l'intérieur de l'église, filtré par les verres colorés, en une explosion de pastilles mauves, turquoises, pourpres, émeraudes.
Les adultes morts ont fait fort, pensait Augénor.
Il ignorait lequel d'entre eux avait eu cette idée, sans doute la dernière avant que le nuage rongeant ses poumons ne l'enlève, mais toute cette cérémonie du sanctuaire avait été très habilement conçue. Cette île de la cité, transformée en île interdite le reste de l'année, cette cathédrale, transformée en sanctuaire, ce laser bleu qui marquait le temps de la cérémonie, ces chaises qui ne servaient qu'une fois dans l'année, une centaine pour les enfants du château côté droit, une centaine pour les enfants du tipi côté gauche.
Oui, bien vu les adultes, pensait Augénor.
Forcer les enfants survivants à se souvenir des vivants d'avant, de leurs parents, une fois par an, avec des milliers de papillons bleus courant sur les murs de pierre pour représenter les âmes des milliards d'êtres humains disparus. Aucune civilisation ne peut se construire sans mémoire, avait retenu Augénor de ses cours d'histoire, sans rituel, sans cérémonie, sans mise en scène, et celle du sanctuaire était particulièrement réussie. Tous les enfants du château entraient dans la cathédrale en tenant à la main une bougie, puis la posaient sur le carrelage froid, illuminant timidement le sol de l'énorme voûte sombre, comme un plancher de feu, alors que le sommet était inondé de bleu. La procession des enfants du tipi était elle aussi impressionnante, quand tous entraient en rang, tous tenant une petite cage d'osier, et à l'intérieur un pigeon, une colombe, une tourterelle, n'importe quel petit oiseau dont les rues de Paris pullulaient, puis que, dans le ciel artificiel, il lâcherait. Oui, pensait Augénor, les adultes ont composé une cérémonie du souvenir bouleversante et efficace. Quand il aurait à construire ce monde nouveau, lui aussi devrait trouver ce genre d'idée. Les hommes aimaient les symboles, et les enfants les avaient presque tous oubliés. Il tourna les yeux vers la gauche. Un instant, il soutint le regard de cette fille habillée en noir. Mordelia baissa les yeux. Pas besoin de se dévoiler devant cet étrange handicapé qui se tenait toujours au premier rang, sur son fauteuil roulant. Elle ignorait comment il s'appelait, mais elle l'avait vu grandir, année après année. Dès son plus lointain souvenir, il y a 5 ou 6 ans, elle avait compris que c'était lui qui commandait le château. Aussi immobile qu'une statue de pierre, mais c'était lui qui tirait les ficelles. Tout comme moi au tipi, s'amusa-t-elle à penser. Il devait s'interroger de la même façon sur elle. Les enfants différents savent reconnaître d'un regard cette petite flamme d'intelligence qui brille au fond de leurs yeux. Oui, c'était ce garçon qui était, de tous ses adversaires, le plus dangereux. Quand il tourna à nouveau ses lunettes d'argent vers elle, elle détourna les yeux et fixa la statue d'une fille aux mains jointes, drapeau sur l'épaule et épée à la ceinture. Cette fille lui plaisait. « Jeanne d'Arc », lut-elle en serrant son sac et ses 3 livres contre sa poitrine. Mordelia puisait en eux sa force, ses pouvoirs, ses certitudes. Aux yeux de ces châtelains, ils n'étaient que des barbares, mais elle prouverait à ce prétentieux dans son fauteuil, poussée par cette fille avec ses roses fanées sur la tête, qu'elle aussi savait lire, qu'il n'y avait pas besoin de connaissances infinies, ni d'une bibliothèque entière pour construire un monde nouveau, que 3 livres suffisaient pour tout expliquer. Alix pleurait. Elle s'était retenue pendant toute la procession. C'est à elle que revenait le devoir de pousser le fauteuil d'Augénor cette année. Elle s'était assise juste derrière lui, au premier rang, devant l'autel. Et maintenant, elle pleurait. Elle pensait si fort à Zizo, le seul enfant absent, le seul des enfants de Paris, à l'exception de ceux de l'expédition de Solario, à ne pas assister à la cérémonie. Le vote du conseil avait été sans appel. Même Isalis avait voté dans le sens d'Augénor et des 2 autres délégués. Selon le conseil, on ne pouvait pas laisser Zizo assister à la veillée du sanctuaire. Il devait rester enfermé dans sa chambre le temps du spectacle laser du soleil de fer. Le laisser entrer dans le sanctuaire aurait été beaucoup trop dangereux. Libre, il serait allé s'installer avec ses amis, de l'autre côté de l'allée. Prisonnier, escorté de quelques enfants soldats, il aurait à coup sûr provoqué une bagarre. Le début de la guerre, peut-être. Alix avait eu beau protester, les enfants ne se battaient pas dans le sanctuaire, ne se parlaient pas, se contentaient de penser à leurs parents et à toutes les grandes personnes d'avant. Augénor et les autres n'avaient pas cédé. « Nous grandissons, Alix. Ces traditions et ces rituels, bientôt, ne seront plus respectés. Bientôt, des premiers enfants commenceront à les braver. Emmener Zizomis précipiterait tout. Nous ne pouvons pas nous permettre un combat en terrain découvert. Notre force, c'est le château. Si la guerre entre les enfants doit éclater, il faut que nous ayons l'avantage du terrain. C'est ce que Marie-Lune a voulu. » Il avait raison, bien entendu. Augénor et les autres avaient raison. Alix détaillait chaque enfant du tipi. Elle trouvait plus beau ce nom, les enfants du tipi, que le nom réel, les enfants de la tour Eiffel. Les noms d'avant n'avaient plus aucun sens, souvent. Elle repensait aux cris et aux pleurs de Zizo quand il avait appris qu'il resterait enfermé dans la prison de son donjon le soir de la veillée. À ses poings enragés contre la porte, à son beau de rosier qu'il cognait contre les murs de pierre. Puis, bien plus tard, quand il s'était calmé, Zizo avait demandé un service à Alix, un énorme service. « Fais un signe à Agnel, mon ami, mon jumeau. » Agnel participerait à la cérémonie. Agnel s'inquiéterait pour lui. Zizo en était persuadé. Alors, il fallait le rassurer, qu'il sache qu'il était vivant, qu'il allait bien. « Tu le reconnaîtras, Alix. Il est grand, maigre, très brun, comme un oiseau déplumé. Tu auras juste à le regarder, à lui sourire, en mimant un geste d'aile d'oiseau avec tes deux mains. Agnel comprendra. » Alix avait promis. Elle trouverait Agnel et lui ferait le signe. Son ami comprendrait. Tous ses amis du tipi seraient rassurés. Alix avait promis, mais elle avait beau se retourner et chercher parmi tous les enfants assis à sa gauche, aucun ne ressemblait à la description d'Agnel. L'ami de Zizo ne participait pas à la cérémonie. Où était-il? Disparu? Mort? Prisonnier, lui aussi? Elle essayait toujours de le repérer, mais son insistance à regarder chaque enfant du tipi devenait gênante. Elle ressentait de l'hostilité. Surtout de la part de ce petit gamin costaud, presque aussi large que haut, au regard plus imbécile que celui d'un sanglier, et qui passait son temps à fixer sa couronne ou à guetter le dragon au pied de Saint-Georges, comme si la statue de pierre allait s'animer.
« Qu'est-ce qu'elle a, celle-là, à tous nous regarder ?» ruminait Bill. « Avec ses fleurs sur la tête, avec son copain qu'elle pousse dans un fauteuil à roulettes. C'est lui le chef des enfants du château? Un garçon qui ne peut même pas marcher ?»
Qu'est-ce que Akan attendait pour les attaquer? C'était maintenant qu'ils devaient agir, eux les enfants du tipi, sans attendre que ces affameurs rentrent dans leur château, bien au chaud, barricadés. À quoi rimaient ces traditions imbéciles? On renversait les chaises, on fonçait, à armes égales pour une fois, et on verrait bien qui était le plus fort. Il fallait le faire maintenant, pas dans 3 mois, quand tous les enfants du tipi seraient plus faibles encore, à ne manger que des racines et des graines, alors que les châtelains, bien nourris, deviendraient plus grands et forts, même les filles. Les filles d'en face étaient plus grandes et fortes, plus belles aussi. Bill délaissa un instant le dragon de pierre au-dessus de sa tête pour poser les yeux sur cette fille aux longs cheveux d'or, à la taille cambrée et à la poitrine déjà bien dessinée. Une fille superbe, aussi fine qu'une antilope, des courbes aussi parfaites que celles d'une zébrelle. Sabine ne remarquait pas les regards des garçons posés sur elle. Elle se contentait de savourer la beauté de la cérémonie. Même si, au cas où on lui avait demandé son avis, elle aurait su comment l'améliorer. Elle aurait gardé les lasers bleus et les papillons sur les murs, bien entendu, ainsi que les bougies et les oiseaux. Mais du plus loin qu'elle remontait dans ses souvenirs, elle avait toujours rêvé que les enfants se mélangent, qu'ils puissent s'asseoir où ils voulaient. Elle avait rêvé de se retrouver assise entre 2 enfants du tipi inconnu et surtout de rompre le silence. Ça aussi, elle l'aurait changé. Le silence,
Il était tellement ridicule. Elle l'aurait remplacé par des questions, des conversations, des jeux. Ses enfants d'en face devaient bien rire et jouer aussi, et même sûrement plus qu'eux, puisqu'ils n'allaient pas en classe, les vénards. À bien y réfléchir, si on lui avait demandé son avis, elle aurait viré le laser bleu, les bougies et les oiseaux en cage, et elle aurait organisé à la place de ce truc triste un grand pique-nique, ou une partie de loupe à vue, comme disait Zizot, ou une grande baignade dans le fleuve. Elle était persuadée que les enfants du tipi étaient plus rigolos. Et certains étaient même carrément plus mignons. Sabi avait beau se concentrer sur les papillons bleus qui dansaient au-dessus de sa tête dans la nef, son regard revenait toujours vers le chef du tipi. Car il était leur chef, aucun doute, ce garçon à la peau noire, avec ses muscles, son regard fier, comme un Achille d'ébène. Un héros! Pas comme ce rabat-joie de Génor, ce nabot de Liu ou ce robot de Jean d'Arc. Un héros pour de vrai! Un géant! D'ailleurs, le géant se levait en repoussant de façon très élégante sa grande cape de cuir brune. À 12 ans, il semblait déjà presque avoir la taille des statues adultes du pavillon des soldats. Aucun enfant du château n'était aussi grand que lui. Sur les murs, quelques papillons bleus disparaissaient. Le rayon laser diminuait d'intensité. La cérémonie se terminait. Le géant noir était bien le chef des enfants du tipi, pensa Sabi. Il s'était levé pour orchestrer le feu d'artifice final. C'est le moment, pensa Akan. Il savait que tous les regards étaient braqués sur lui. Derrière lui, tous les autres enfants du tipi se levèrent, puis, dans le même geste, saisirent leur petite cage d'une main. La chorégraphie, répétée chaque année, était parfaitement rodée. Elle suscitait l'admiration des enfants du château, du moins Akan l'espérait. Chaque enfant du tipi plongea sa main libre dans sa cage et la referma sur la colombe ou le pigeon prisonnier. Les cages tombèrent toutes au sol dans un fracas d'osier brisé, alors que les enfants refermaient leur autre main sur les oiseaux. On aurait dit qu'ils pressaient un tissu blanc entre leurs doigts. Tous levèrent dans le même mouvement leurs mains jointes, le plus haut possible au-dessus de leur tête, puis les ouvrirent d'un coup. Le plus bel instant de la cérémonie. Dans le même élan, une centaine d'oiseaux blancs s'envolèrent dans le ciel de pierre, agitant leurs ailes comme dans une immense volière, traversant la nef, fendant le cœur, rasant les vitraux de la rosace, se posant un instant sur la tête des papes ou des évêques de marbre, planant au-dessus des grandes orgues. Voltant, paniquant, descendant, remontant, cherchant une issue qu'ils ne trouvaient pas, il leur faudrait plusieurs jours pour sortir du sanctuaire. Certaines colombes, sans doute, y feraient leur nid. Tous les enfants, quelle que soit leur rangée, levaient les yeux fascinés. Fascinés, comme chaque année, regrettant que le rayon bleu faiblisse et qu'il faille sortir, quitter des yeux ces dizaines de vols majestueux. Isalis devait bien le reconnaître, ces petits sauvages du tipi avaient soigné leur mise en scène. Ce tableau des oiseaux volants valait bien nombre de croûtes du pavillon des singes. Elle ajusta les pinceaux qui retenaient son chignon sur sa tête et replaça ses lunettes rondes dorées. Rien à dire. Ces indigènes avaient le sens du rythme et savaient interpréter une chorégraphie coordonnée. À l'exception de cette petite demeurée qui jouait encore à la poupée.
« Ne regarde pas, Lali !»
chuchota Crisante en pressant sa poupée contre son cœur.
« Ne regarde surtout pas !»
Une seconde plus tard, la première colombe s'écrasa sur l'autel. Puis trois autres s'écrasèrent à leur tour, sur le carrelage froid du cœur. Certaines volèrent encore, mais comme épuisées, se posèrent sur une corniche ou le rebord d'une haute voûte, puis basculèrent. Une à une, les tourterelles se statufièrent, incapables d'agiter leurs ailes, et tombèrent comme des pierres. Les dernières lueurs du laser bleuirent quelques plumes en suspension. Il fallait sortir. Les enfants du tipi quittaient toujours le sanctuaire en premier. Jean d'Arc, raide, se tenait sur ses gardes. Le délégué du pavillon des soldats ne pensait pas que les enfants du tipi puissent avoir préparé un piège et osent les attaquer pendant la veillée du sanctuaire, mais son devoir était de tout prévoir et d'anticiper. Un simple geste de la main et tous les enfants soldats se mettaient en position de combat. Sa main resta immobile. Les enfants du tipi n'attaquèrent pas. Jeanne d'Arc l'avait compris. Leurs visages étaient tétanisés par la chute des oiseaux, consternés, comme si une malédiction s'était abattue sur eux. Suivant les commandements du géant noir qui les dirigeait, ils sortaient en silence, laissant derrière eux les cadavres d'oiseaux, enjambant quelques petits tas de plumes blanches. Certains pleuraient, les autres se retenaient, serrant les poings et les dents. Le rayon bleu s'éteignit soudain. Seules les flammes des enfants du château éclairaient désormais la cathédrale pendant quelques minutes, avant que derrière le fauteuil d'Augénor poussé par Alix, tous les enfants du château sortent à leur tour, en procession, bougies à la main. Liu, le délégué du pavillon des savants, quitta le sanctuaire en dernier. Il ne put se résoudre à passer devant le corps tremblant d'une tourterelle sans se pencher vers elle. La spécialité de Liu, c'était la médecine, l'anatomie, les sciences de la vie. Il ramassa la tourterelle entre ses mains. Elle était chaude, une aile cassée dans sa chute, mais vivante. Il devait ramasser les oiseaux survivants, tous, avec les autres enfants savants, les analyser, et pourquoi pas, les sauver. Quand il se releva, Liu s'aperçut que les autres garçons et filles étaient sortis. Il courut jusqu'à la porte de la cathédrale. Les enfants du tipi avaient déjà franchi le pont au double et disparaissaient de l'autre côté de la Seine. Curieusement, les enfants du château étaient restés sur le parvis, le nez en l'air, scrutant le ciel. Est-ce qu'après les colombes, c'était au tour des étoiles de tomber? Cette drôle d'idée traversa la tête de Liu avant qu'il ne remarque le point que tous les enfants fixaient. Un morceau de ciel, un peu au-dessous de la grande ours, un morceau de ciel, vide, noir. D'abord il ne comprit pas, avant que l'évidence ne l'assomme. Il n'y avait plus de lumière clignotante rouge. Le soleil de fer s'était éteint. Quelques nuages, dans les instants qui suivirent, se déchirèrent et libérèrent la lueur de la lune. La nuit devint soudain plus claire. Et une évidence, pire encore, écrasa les enfants réunis sur le parvis. Le soleil de fer ne s'était pas seulement éteint. Il n'était plus dans le ciel. D'ordinaire, on repérait distinctement sa silhouette au-dessus des toits. Il était tombé quelque part dans la ville. Aucun enfant du château ne parlait. Tous réfléchissaient aux conséquences de ce qu'ils voyaient, ou plutôt ne voyaient plus. Mais aucun ne les percevait avec autant de précision que Liu. Le délégué du pavillon des savants avait étudié pendant des journées entières la technologie du soleil de fer, sa position géostationnaire, ses cellules pour capter l'énergie solaire, les connexions par ondes magnétiques pour restituer cette énergie au château. Il comprenait maintenant les derniers mots de Marie-Lune hier. Ce message est le dernier que je vais enregistrer. Sans soleil de fer, le château se trouverait sans électricité ni aucune autre source d'énergie. Cela signifiait, Liu énumérait à toute vitesse dans sa tête la liste des conséquences, plus de chauffage dans le château, plus de lumière, plus d'écran, plus de vidéos, plus d'ascenseurs, plus de magie aux yeux des enfants du tipi, plus de peur. Le regard de Liu croisa celui de Jeanne d'Arc, puis de Génor, puis d'Alix. Désormais, ils étaient vulnérables.